Le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonsoir. Un des deux dos d'âne installés sur la route cantonale à Saucy devrait être refait. L'obstacle n'est pas conforme au projet élaboré par le canton du Jura. La bosse n'est pas assez arrondie. Delémont rejoint les communes jurassiennes qui bénéficient d'un frigo solidaire. Une installation de ce type est mise en place au pied du pont de la Maltière. Elle sera officiellement inaugurée samedi. Deux personnalités du PLR passent à la tête des chambres fédérales. L'argovienne Maya Riniger a été élue à la présidence du Conseil national aujourd'hui et l'appenzellois Andrea Caroni à celle du Conseil des États. Météo, les averses vont se poursuivre dans la nuit. La limite de la neige descendra vers 1200 mètres. Un temps sec est prévu demain avec quelques éclaircies. Des giboulées seront également possibles. Le dos d'âne situé à l'entrée de Saucy depuis Glovelier pose bel et bien problème. L'ouvrage devrait être corrigé par l'entreprise qui l'a réalisé. Il ne correspond pas au projet élaboré par le service des infrastructures. Le canton du Jura a en revanche validé l'autre ralentisseur qui a été construit en direction de l'Ajoux, Alexandre Rossé.
Ce dos d'âne a surpris de nombreux automobilistes depuis son installation au début de l'automne. Certains conducteurs ont même rapporté des dégâts à leur véhicule. Le service des infrastructures a ainsi mené une analyse de la géométrie de la bosse. Il en est ressorti que le dos d'âne n'est pas conforme au projet élaboré par le canton. La bosse est un peu plus haute et moins arrondie que prévu, selon Jacques Ria du CINE. Le service des infrastructures n'a donc pas réceptionné l'ouvrage et demandé à l'entreprise concernée de refaire le ralentisseur en question. Les travaux devraient encore être réalisés cette année si les conditions météorologiques le permettent. Et en ce qui concerne les dégâts causés à certaines voitures, l'État n'envisage pas de dédommagement, sachant que chaque automobiliste est tenu d'adapter sa conduite aux conditions de la route.
Le projet de chauffage à distance va de l'avant à Moutier. La municipalité se dit favorable au raccordement des bâtiments communaux à la future installation prévue dans la zone industrielle des Lèves. 12 sites ont été retenus, dont les écoles, l'hôtel de ville, la sociétale ou encore la bibliothèque notamment. Le conseil de ville avait donner une recommandation favorable à une participation communale au projet. Il avait soutenu un engagement de 2,5 millions de francs destiné à participer au capital de la société anonyme appelée à gérer l'installation. Delémont se dote à son tour d'un frigo public solidaire. Une installation de ce type a pris ses quartiers au pied du pont de la Maltière à la suite d'une motion de la socialiste Leila Hanini qui avait été acceptée par le conseil de ville. Le frigo a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire et de venir en aide aux plus démunis. Population et commerçants pourront y déposer de la nourriture et des invendus. La viande, le poisson, l'alcool et les produits cuisinés ou ouverts ne seront toutefois pas acceptés. Des bénévoles vont s'occuper de l'installation et s'assurer de son bon fonctionnement. Les explications de l'un d'entre eux, Bruno Cardona.
On est 3 bénévoles pour l'instant, avec une autre équipe de réservistes pour se faire remplacer au cas où. C'est une action qui est une action locale, qui est concrète, une action de partage et puis qui permet quelque part de valoriser les restes alimentaires, de trouver une deuxième vie. Donc effectivement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
Quand on est bénévole, quelle sera la tâche à accomplir avec ce frigo solidaire?
Elle est modeste. Il s'agit de venir en fait pour chaque bénévole une fois par semaine pour ouvrir le frigo, constater son état, le nettoyer si besoin et puis remplir la fiche de suivi sanitaire, de manière à ce que le service compétent puisse être informé. Et puis on imagine peut-être dans le futur de peut-être passer chez certains commerçants à jour et heure fixe de manière à pouvoir amener directement dans le frigo les surplus alimentaires qui seraient valorisés.
Alors le risque avec une telle structure, c'est qu'elle se transforme quelque part en poubelle s'il y a des incivilités ou que les gens ne jouent pas le jeu. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez?
Moi, je suis dans la confiance par rapport au comportement des humains. Et pour moi, c'est une assiette collective à partager. Point.
Des propos recueillis par Raphaël Chalvera, le frigo public et solidaire de Delémont sera inauguré officiellement samedi entre 13h30 et 15h. Le budget 2025 doit passer le cap de l'Assemblée communale aux enfers. Les citoyens se prononceront ce soir sur l'exercice qui prévoit un déficit de 65 530 francs. Deux crédits figurent également à l'ordre du jour. Le premier se monte à 10 000 francs pour la rénovation du réservoir principal. La seconde somme de 11 500 francs est prévue pour le remplacement des pompes de la station naturelle d'épuration des eaux. La première citoyenne du pays pour les 12 prochains mois sera libérale radicale argovienne. Le Conseil national a élu aujourd'hui Maya Riniger à sa présidence avec 170 voix. Au Conseil des États, le nouveau président est un autre PLR, l'appenzellois Andrea Caroni, qui a été élu avec 45 voix. Portrait de Maya Riniger avec notre correspondant parlementaire Serge Hubin.
Maya Riniker, 46 ans, économiste d'entreprise et mère de famille, n'est pas une adepte des coups d'éclat. Cette habitante de Zour, près d'Aro, prône au contraire le compromis et le dialogue. Elle s'inscrit dans la droite ligne libérale radicale, favorable à une armée forte qui coopère avec l'OTAN. Succédant au socialiste balois Eric Nussbaumer à la présidence du Conseil national, Maya Riniker a obtenu un score correct avec 170 voix sur 200 conseils nationaux, loin du record de 193 voix d'Isabelle Moret en 1999. Elle a fait l'éloge de la démocratie suisse et de la pluralité du pays. Et depuis 2 ans qu'elle sait qu'elle sera première citoyenne du pays, Maya Riniker a appris le français.
J'ai la grande chance d'aimer le contact et le dialogue, ce qui est très important lorsqu'il s'agit de débattre de manière respectueuse des sujets difficiles, voire émotionnels. Que ce soit entre les régions linguistiques et les cultures, entre villes et campagnes, entre les communes et les cantons aisés financièrement ou moins fortunés, la cohésion entre les couches sociales est encore et toujours mise à l'épreuve.
L'UDC fribourgeois Pierre-André Page accède à la première vice-présidence avec 156 voix. Il y a eu 23 bulletins blancs, il sera président en 2026. Et à la deuxième vice-présidence, une première pour les Verts libéraux avec la désignation de la baloise Katia Christ. 2025 sera l'année des présidents PLR en Suisse. Karine Keller-Souter sera présidente de la Confédération. Le Parlement l'élira le 11 décembre. Et au Conseil des États, l'Appenzellois Andrea Caroni, 44 ans, accède au perchoir avec 43 voix. La socialiste jurassienne Mathilde Crevoisier-Crelier est élue scrutatrice avec 37 voix. Elle devrait présider la Chambre des cantons en 2028.
L'UDC gagne encore des électeurs. C'est ce que montre le dernier baromètre électoral de l'Institut Sotomo, publié aujourd'hui. Plus de 4000 personnes ont été interrogées sur leurs intentions de vote, puis l'une année après les élections fédérales. Leur choix se porte toujours davantage à droite, Marie Villemier.
Si de nouvelles élections fédérales avaient lieu aujourd'hui, l'UDC gagnerait 2% de part électorale et frôlerait les 30%. Ce serait le meilleur score de son histoire et aucun autre parti ne progresserait. Les libéraux radicaux et le centre resteraient au coude à coude. Les socialistes et les verts perdraient chacun 0,5% de part électorale, alors que les verts libéraux verraient leur électorat fondre de 1%. Un glissement du Parlement vers la droite qui reflète la tendance européenne où règne un état d'esprit de plus en plus conservateur, constate Sotomo. L'enquête montre que même si la gauche a remporté plusieurs votations populaires depuis le début de l'année, elle ne parvient pas à convaincre les citoyens lorsqu'il s'agit de l'élire au Parlement fédéral. Pourtant, la préoccupation majeure de la population reste, et de loin, la hausse des primes maladie. Suivent l'immigration, l'asile et le climat.
À l'étranger, le gouvernement français de Michel Barnier se retrouve en très grand danger. Le Premier ministre a engagé aujourd'hui la responsabilité de son cabinet sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale avec l'article 49.3 de la Constitution. La disposition permet d'adopter le texte sans vote, mais l'expose à une motion de censure. La gauche a promis de lancer une telle démarche à laquelle le Rassemblement national va également s'associer. L'ensemble de leurs voix peut conduire à la chute du gouvernement de Michel Barnier.
RFJ, il est 18h09.
Sport.
Glace, Jerry Turkulainen retrouve l'équipe nationale de Finlande. L'attaquant du HC Ajoie a été sélectionné pour disputer l'Euro Hockey Tour qui se jouera à Fribourg dans une dizaine de jours. Le HCA l'a annoncé aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. L'ailier finlandais est l'actuel co-meilleur compteur du championnat de National League. Il a déjà porté à 9 reprises les couleurs de la Finlande. En football, Simon Caillet continue son chemin vers une carrière professionnelle. La Joulot a disputé ces derniers mois ses premiers matchs en actif après avoir rejoint Concordia Bâle en première ligue cet été. Le jeune homme de 18 ans a par ailleurs disputé ses premières minutes de jeu avec l'équipe de Suisse des moins de 19 ans. Après avoir déjà goûté aux joies de la sélection chez les moins de 18 ans, il multiplie actuellement les entraînements pour se donner toutes les chances de percer dans le monde très sélectif du ballon rond. Simon Caillet revient sur ses derniers mois et son arrivée chez les actifs.
Ça a fait quand même au début un petit changement au niveau du rythme, au niveau de l'intensité. C'est quelque chose qu'en U19, on voyait un petit peu moins, le rythme. J'ai eu la chance de pouvoir m'imposer comme numéro 1 depuis le début de la saison. Donc c'est sûr qu'enchaîner les matchs, ça fait beaucoup d'expérience. Je m'entraîne toujours les entraînements du matin avec les M21 de balle. Donc c'est 2, 3, 4 entraînements par semaine. Le soir, ce sera plus avec Concordia pour des entraînements d'équipe. Et puis le week-end, le match avec Concordia.
Une grande charge de travail, comment vous parvenez à l'assumer?
C'est vrai qu'au début, c'était encore une différence avec les heures d'entraînement. Ça change, ça s'entraîne plus tard, les adultes. Donc ça, c'est au début un rythme qu'il faut prendre. Mais après, avec le rythme, on arrive à s'adapter. Puis voilà, j'arrive à trouver des temps de récupération, des temps de repos, des temps aussi pour travailler encore un petit peu l'école. J'arrive bien à gérer maintenant.
Justement, vous êtes étudiant à côté de tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à trouver une place pour un étudiant à travers ce chemin de footballeur?
C'est sûr que c'est pas forcément facile, mais j'ai des allègements avec l'école qui me permettent de pouvoir avoir du temps pour aller m'entraîner. Donc c'est vrai que j'arrive à bien combler les deux. Et puis c'est quelque chose qui est aussi important de pouvoir avoir un plan à côté du foot.
Des propos recueillis par Michel Léoni. Simon Caillet souhaite continuer sa carrière au FC Bâle et espère goûter à la Super League. Retrouvez son entretien complet sur rfj.ch. L'apprentissage suit son cours pour le volleyball Franche-Montagne. L'équipe franc-montagnarde a retrouvé la Liga cette saison avec pour objectif premier de s'y maintenir. Le premier tour s'est terminé ce week-end et le VFM pointe au 7e rang du classement avec 3 longueurs d'avance sur la barre. Pas de quoi fanfaronner, mais de quoi aborder tout de même la suite avec une certaine sérénité. La formation Tenyon a encore un potentiel à exploiter. Son entraîneur Mélanie China présente quelques raisons d'être satisfaite des premières semaines de compétition dans l'élite.
J'ai fait une analyse au niveau des chiffres de tous les matchs qu'on a joués, et puis comparé avec nos adversaires lors de ces matchs. Et puis c'est vrai, les différences, elles sont vraiment minimes. Je pense que c'est vraiment dans ces situations clés, dans ces money time, dans ces fins de set, de vraiment garder l'esprit calme et de vraiment exécuter puis jouer un volet parfait dans ces derniers points d'un set. Donc c'est vraiment des choses qui, d'un côté, l'expérience, mais aussi une bonne technique de base pourrait amener.
C'est peut-être aussi lié au manque d'expérience peut-être de certaines joueuses aussi par rapport à ce niveau d'exigence que demande la Liga.
Oui, certainement. On en a une des étrangères, que c'est sa première expérience à l'étranger. Elle doit aussi prendre un peu les références de la Ligue et aussi gérer la pression qui va avec, parce que malgré tout, ça reste un jeu, mais la pression, elle est tout le temps présente. Et puis, je pense que pour certaines, ça prend vraiment du temps un peu plus que d'autres. Mais on voit qu'il y a du progrès. Si on regarde aussi l'évolution durant les semaines, on fait aussi les stats pendant les entraînements, on voit qu'on va de l'avant du bon côté. Maintenant, c'est vrai, il faut réussir à mettre ça sur le terrain le dimanche quand c'est le moment.
Mélanie China était l'invitée de Loïc Georgi aujourd'hui dans la matinale. Enfin, en tennis, la Suisse défiera l'Espagne au premier tour de la Coupe Davis. Le tirage au sort a lieu aujourd'hui. La rencontre se jouera entre le 31 janvier et le 2 février. Elle pourrait se tenir à Bienne, mais ce n'est pas encore validé par Swiss Tennis.